Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Soyez les bienvenus sur Europe 1 après cette soirée enflammée de Ligue des Champions avec Lionel Rousseau. Eh bien, vous retrouvez votre libre antenne et ce pendant 1h30 jusqu'à 1h du matin. Pour nous joindre, vous savez comment on fait. 39-21, 50 centimes d'euros la minute. 7-39-21 pour vos messages. 7-39-21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules suivi d'un espace. Et puis toujours vos mails à la libre antenne @europe1.fr, libreantenne@europe1.fr et sur notre groupe de parole Facebook Olivier Delacroix, Sabine Marin, la libre antenne. Voilà, un petit clin d'œil aux Marseillais qui rien n'est fini, hein, rien n'est terminé. Il faut toujours y croire. Donc on salue tous nos amis marseillais ce soir amoureux de l'OM. Et voilà, nous sommes maintenant installés. Si vous le voulez bien, nous allons commencer cette libre antenne du mardi. C'est parti.
Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et bien évidemment, vous retrouverez le journal de la rédaction et Julien Pierce à partir de minuit, chers amis. Pour le moment, nous accueillons Steph. Bonsoir Steph.
Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir, comment allez-vous ?
Ben, ça va pas trop mal.
Bon, très bien. D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous, Steph ?
Du Poitou-Charentes.
Oui.
Vous arrivez tout de suite ?
À peu près.
Souvent,
peu
c'est, près. Souvent, les gens, ils savent pas trop. Hein.
Bah, dites-moi. Enfin, dites-moi.
Si je dis les Deux-Sèvres, c'est encore pire. Alors, hein.
Les Deux-Sèvres, c'est du côté de Nantes, non ? C'est ça ?
Un peu plus bas, quand même.
Un peu plus bas, d'accord. Donc, quel Poitiers, c'est ça ?
Oui, Poitiers, c'est, oui, c'est au niveau du Poitou-Charentes, mais Niort.
Niort, d'accord. Très bien. Quel âge avez-vous, Steph ?
45 ans.
D'accord. Alors, dites-moi ce qui vous amène.
Moi, j'aurais voulu parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui s'appelle la bipolarité. Parce qu'en fin de compte, on m'a diagnostiqué cette maladie-là quand j'avais 20 ans. Et qu'à l'époque, je ne l'ai pas acceptée.
Qu'à l'époque, vous n'avez pas quoi, pardonnez-moi ?
Accepté.
Accepté, d'accord.
Je n'ai pas accepté.
Avant...
Il y avait tellement de choses à l'époque, c'était tellement...
Oui, puis à 20 ans, ça doit être assez compliqué, je suppose, d'accepter un diagnostic qui, en plus, il y a 25 ans... On ne connaissait pas vraiment bien cette maladie. Donc, comment ça s'est passé avant déjà ce diagnostic, avant vos 20 ans ?
Avant, tout se passait super bien. Je faisais du sport à outrance.
Oui.
Donc, j'étais quasiment national dans deux sports différents, à savoir le roller de vitesse et le cross-country. Donc, une vie à 1000 à l'heure. Donc, c'est avec des plannings d'entraînement 6 jours par semaine, plus le bac, plus plein de choses. Enfin, voilà.
Et vous pensez que cela avait un rapport, justement, le niveau
Non. Ça m'a peut-être sauvé la vie. Parce que ce qui suit, c'est pas pareil. C'est qu'en fin de compte, j'ai fait un petit voyage entre deux partiels. Je suis allée à Strasbourg. Et en rentrant à Paris, il y avait des très grosses inondations. Ce jour-là, et mon TGV, il ne pouvait pas aller sur Poitiers. Du coup, j'étais bloquée en gare.
Ouais.
Du coup, avec toute ma naïveté qu'on a quand on a 20 ans, surtout que je n'avais jamais pris le métro de ma vie, vers 23h, je suis allée dans les bouches du métro, j'ai essayé de trouver des métros. Enfin, je ne me suis pas bien rendu compte que ça pouvait être dangereux. Et j'ai été enlevée. Voilà.
Vous avez été enlevée, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on m'a droguée et on m'a embarquée.
D'accord.
J'ai demandé mon chemin et Et ça s'est passé comme ça, malheureusement pas aussi simple que ça, parce que il m'a fallu très longtemps avant de retrouver la mémoire. Parce que tout ce qui suit après, c'est beaucoup moins facile. Donc, voilà, moi sur le moment, je me suis rendu compte de rien, bien sûr. Puis après, un petit moment de lucidité entre deux je sais pas ce quoi. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et que j'étais dans une pièce et qu'on venait de me demander de me déshabiller entièrement. Et que là, je me suis dit, petite voix qui me disait barre-toi. Et la chance que j'avais, c'est que sportivement, j'étais costaud. Donc, j'ai pas réfléchi, j'ai foncé dans le tas. Et j'ai bousculé trois personnes, ça devait être trois hommes, j'imagine. Et j'ai réussi à passer à travers la porte parce qu'ils venaient juste de l'entrouvrir. Enfin, j'ai vraiment une chance inouïe.
Ouais.
Et sauf que bon, j'étais droguée, j'avais pas mangé depuis plusieurs jours, pas dormi depuis je sais pas combien de temps. Et on m'a retrouvée inanimée dans le caniveau.
Et vous êtes restée plusieurs jours comme ça en captivité?
En fin de compte, il a dû se passer à peu près deux, trois jours, enfin, à quelque chose près, entre le moment où mes parents ont su que j'étais partie de Strasbourg et bien sûr la douloureuse épreuve de l'attente de savoir si on allait me retrouver du jour.
Oui, et durant ces deux jours, je suppose que vous avez subi des choses violentes.
Ils n'ont pas eu le temps.
Ah,
ils n'ont pas eu le temps.
Comment
ils n'ont pas eu le temps parce que ils n'ont pas eu le temps de choses violentes parce que j'ai réussi à m'échapper avant. Sauf que j'ai erré après.
D'accord.
J'ai erré. Je savais plus qui j'étais. Je savais plus où j'étais.
J'ai
couru dans tout Paris.
Mm-hmm.
Et,
ça veut dire que vous vous échappez instantanément, pratiquement une fois que vous arrivez là-bas.
Non, pas complètement parce que des souvenirs. Parce que malheureusement, c'est que des brèves de souvenirs. J'ai pas tout. J'ai pas tous les détails. Puis encore moins 25 ans après, parce que bien sûr après il y a eu une période d'amnésie. Enfin, il y a eu. Donc il a fallu déjà très très longtemps que je me souvienne de certaines choses. À chaque fois que je me souvenais d'un truc, j'avais ma tête qui allait exploser. Quoi. Et à chaque fois que je voulais me souvenir, c'était très compliqué. Donc j'écrivais, dès que j'avais un flash et tout, j'écrivais. J'ai écrit pendant, je veux dire, plusieurs années. Avant de tout recolmater, il m'a fallu plusieurs années. Hein. C'est pas deux jours, trois jours. Ouais. Et puis l'acceptation aussi de ce qui s'est passé, on veut pas ça. Le cerveau le rejette. On ne veut pas avoir été enlevé, on ne veut pas
passer
tout ça. Puis après, tout ce qui s'est suivi, parce que justement, après ça, spécialisation, quand on est amnésique, il n'y a pas 36 cases. Hein. Donc, quand vous êtes sportif de haut niveau, quand vous faites dans une case de psychiatrie, imaginez ce qui peut se passer. Dans le mille, hein, je me suis échappé plein de fois.
Comment ça?
Je me suis échappé. Mais non, mais j'étais. Même sous médicaments et tout, ils pouvaient pas. Je m'échappais. Hein. Ils arrivaient à me rattraper.
Mais revenons sur cet incident à vos 20 ans. Est-ce que.
Et donc, du coup, à cause de ça, à cause de ce gros choc, de cet enlèvement et tout,
oui.
Et ben, les premiers mois, on va dire non, ils n'ont pas diagnostiqué tout de suite. Il a fallu changer plusieurs fois de psychiatre. Et il y a 20 ans, un jour, il y a un psychiatre qui dit elle doit être bipolaire. Du coup, mes parents, ils ne savaient pas ce que c'était, personne ne savait ce que c'était. Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est une formation, donc il faudra un traitement à vie. Bien sûr, avec tous les médicaments qu'ils m'ont donnés à l'époque, j'étais un légume. Quoi. Je faisais plus rien de mes journées, je dormais à longueur de temps. Je mangeais ma soupe, je tremblais. Enfin, plus personne ne me reconnaissait. Quoi. J'étais passée la sportive à un légume. Quoi. Et moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas ce traitement. Je dis non, moi, je vivrai sans traitement. Donc, j'ai lutté. Mais le diagnostic était vrai. Donc, il m'a fallu longtemps pour le comprendre. Plus de 23 ans.
Et lorsque, en fait, on vous diagnostique à l'âge de 20 ans, pas à cause de cet incident, je suppose. Il y a des choses
à cause de ça. Un choc, un très très gros choc émotionnel peut être l'effet déclencheur. Parce que je pense pas qu'un bébé dès la naissance, on pourrait dire qu'il est bipolaire. Je pose la question à des spécialistes, mais c'est souvent des facteurs événementiels, plein de choses qui vont faire qu'on le devient, malheureusement. Parfois on dit l'alcool, les toxiques, le manque de sommeil, enfin il peut y avoir plein de raisons. Et les chocs émotionnels, bien sûr, ils en font partie. Il y a beaucoup de gens quand je sais pas si vous avez déjà lu certaines personnes qui sont enlevées, ça m'est déjà arrivé, ils écrivent des livres et ils parlent justement de ces gros chocs émotionnels et que justement il y a des personnes qui justement se retrouvent bipolaires après des enlèvements.
Suite à un gros choc psychologique, ouais, quel qu'il soit, voilà. On peut aussi déclencher une schizophrénie aussi. Mais vous convenez qu'il y avait sans doute un terrain favorable à cette bipolarité.
Peut-être, on ne sait pas. Parce que...
Vous n'aviez jamais, avant vos 20 ans, eu ces sensations de down et de up, comme beaucoup de gens atteints de bipolarité parlent.
Non. Enfin, non. Bon, j'avais une scolarité normale, tout se passait bien.
D'accord.
J'ai pas.
Donc c'est non, suite après, à ce choc-là, peut-être... en fait.
Ouais, voilà ça. Et en fin de compte, ce qui est difficile, c'est là où je voudrais mettre un point, c'est que c'est difficile d'accepter. C'est un mot déjà qu'on refuse quand on comprend, parce que aujourd'hui, je peux en parler à personne. Enfin, je veux dire. C'est un mot qui est hyper tabou, la psychiatrie c'est hyper tabou, on souffre d'une maladie mais les gens ne comprennent pas. J'avais lu que c'était une des maladies, c'était la 10e maladie la plus handicapante qui existe. Il y a à peu près 3% de la population qui est concernée, mais il ne faut pas en parler. Ça c'est difficile aussi. Quelqu'un, il a un cancer, il va parler de son cancer. Moi, je ne peux pas parler. Ma maladie, je l'aurai toute ma vie. Ça ne s'en va pas, un coup que c'est là.
Oui, mais on ne peut pas en parler. Tout dépend dans quel contexte et tout dépend de l'interlocuteur. Parce que vous voyez, ce soir, vous en parlez et vous pouvez en parler dans cette situation-là.
Oui, mais parce que là, je suis anonyme.
Autrement, si vous n'en parlez jamais, vous ne dites jamais à quelqu'un... avec qui vous êtes en confiance, que vous traversez cette épreuve-là?
Non.
D'accord.
Non. Non, c'est assez bizarre. À plusieurs fois, les gens, quand ils ne comprennent pas certaines personnes, il est bipolaire. Tout de suite, c'est le mot qui vient. Ça ne se disait pas il y a 10-15 ans, ça ne se disait pas. Et c'est le truc qui doit être à la mode en ce moment, je ne sais pas. Dès qu'il y a quelqu'un qui est un peu différent d'un autre, ça y est, il est bipolaire. Et pourtant, il y a des gens super... malheureusement, on ne met pas des super étiquettes sur des gens bipolaires qui ont fait des super choses. Enfin, des choses très bien. C'est toujours dans le côté négatif. Ah ben, un tel, il a fait ça, ouais, c'est normal, il était bipolaire. On ne va pas dire que Yves Saint-Laurent, elle était bipolaire. Non, on ne va pas dire
que Britney Spears... Oui, il est certain que c'est un terme. La bipolarité ou être bipolaire, qui est un peu rentré dans le vocabulaire général, comme à un moment, toujours, avoir un comportement schizophrénique. C'est très difficile pour les gens qui en sont atteints d'entendre les autres utiliser ces termes-là pour définir quelque chose qui n'a finalement rien à voir, en fait. Et plutôt pour définir un comportement qui peut être un peu hors norme ou limite.
Oui,
ou lunatique, vous avez raison. Mais bon, ça n'a rien à voir. Pourtant, ça n'a rien à voir. Comment ça s'est passé à 20 ans? Donc, vous vous êtes retrouvé diagnostiqué. Quels sont les traitements qui vous ont été administrés? Parce qu'il y a 25 ans, ce n'était pas la même.
Ah oui, il y a 25 ans, on m'a fait des injections d'Aldol. Donc, j'étais paralysée une fois du côté gauche, une fois du côté droit. Alors, est-ce que c'est mon corps qui refusait? Je ne sais pas. Ou mon psychologiquement, peut-être le fait que... Mais voilà, donc ça a été très lourd. Et puis, ces traitements-là, tous les effets secondaires abominables qu'il peut y avoir avec. Les prises de poids, forcément, c'est catastrophique. Alors déjà, quand on ne va pas bien et puis qu'on prend 20 kilos dans les deux positives...
Oui.
Forcément, ça va encore moins bien. Et puis à l'époque, on vous disait pas les choses, quoi. On vous mettait là, vous aviez votre traitement, et puis voilà. Mais maintenant, c'est un peu mieux quand même, mais quoique. Quoique, ça n'a pas trop évolué. Malheureusement, il n'y a pas assez de financement pour ces petits soucis-là. Quoi. Parce que l'hôpital avec un grand H, il y a des problèmes financiers, c'est sûr, mais la psychiatrie, il y en a encore plus. D'ailleurs, nous, on avait un hôpital, ils l'ont carrément fermé, ça c'est bien. Mais bon, c'est pas comme ça que ça va. Parce que moi, je me dis, avec toutes ces choses qu'on vit en ce moment émotionnellement, les gens qui vont pas bien, ils vont encore aller moins bien. Donc moi, j'ai la chance, j'ai été diagnostiquée, je suis suivie, je suis mon traitement, voilà. Mais je me dis qu'il y a encore des gens qui ne savent pas. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Ils le sont.
Et vous arrivez à identifier des gens qui ne le savent pas encore, par exemple ?
Oui, je peux même identifier des gens qui le sont, des gens qui ne le sont pas.
Mmh.
Voilà, on connaît les symptômes, donc... Mais il y a beaucoup de gens comme moi je l'étais qui n'acceptent pas non plus. Ils ne veulent pas de ça, qui continuent à vivre. Puis malheureusement, c'est une image. Hein.
Et vous, alors, justement, comment depuis 25 ans, vous l'acceptez? Ça a dû évoluer?
Ben moi, en fin de compte, pendant 23 ans, du coup, j'ai refusé à chaque fois les traitements. Hein, je les prenais en moi et puis j'arrêtais. Donc, j'ai compris, j'ai fini par comprendre un peu le mécanisme de cette maladie. Donc, quand ça venait, je m'en rendais un peu compte. Sauf qu'il y a eu des fois, je suis allée trop loin et puis j'ai pas eu le temps.
Mmh.
J'ai fini par des hospitalisations. Et puis, il y a 3 ans, j'ai dit, faut arrêter. Faut être responsable maintenant. Faut assumer et t'as compris maintenant. Mais par contre, je suis allée me renseigner un peu au niveau des traitements. Je voulais pas n'importe quel traitement. Je savais qu'il y avait des traitements qui marchaient bien et à base de lithium, qu'on m'avait jamais proposé avant. Et un jour, j'ai dit, voilà, moi je veux bien me soigner, mais je veux ça comme médicament et pas autre chose. Et ça s'est bien passé, ils ont dit d'accord. Et depuis, c'est impeccable.
Et depuis quoi ?
Depuis, c'est impeccable, je prends mon traitement, tout va bien. Donc, comme quoi, déjà, il faut l'acceptation de la maladie, il faut connaître la maladie aussi, il faut bien se connaître aussi, il faut avoir une super hygiène de vie. C'est super important. Pas évident d'éviter le stress, mais il y a des choses qu'on sait qui vont nous stresser, il vaut peut-être mieux les éviter parfois.
Et le sport aujourd'hui, ouais. En fait, comment...
Le sport, malheureusement, j'ai plus trop le temps. C'est un peu tout... tombé à l'eau, j'ai essayé plusieurs fois. Bon, ça m'a empêché de faire quelques semis, mais je n'ai jamais atteint mon niveau, quoi, ça c'est clair. C'est trop compliqué de revenir, trop loin, puis il y avait trop de kilos à chaque fois.
Mais aujourd'hui, en fait, vous vous sentez comment? Vous vous sentez...
Moi, je me sens apaisée.
Oui.
Et voilà, et mon témoignage, c'est ça. Voilà, il faut pas avoir peur des mots et que les gens qui sont dans ce cas-là, il faut pas se cacher derrière cette maladie, quoi. Essayer quand c'est possible, si ça peut faire du bien d'en parler, quoi. Même si je sais que c'est compliqué. Et que surtout, il faut pas lâcher le traitement, quoi. Quand on a trouvé le bon, pas le lâcher.
Mais vous dites qu'il faut en parler.
C'est tentant, hein, de.
Vous dites
de
qu'il faut en parler.
Comment, hein?
Steph, vous dites qu'il faut en parler. En même temps, il y a 5 minutes, vous m'avez dit que vous n'en parliez pas.
Alors... Il faut en parler avec les personnes qu'on va savoir, qui vont être réceptifs, qui ne vont pas nous juger. C'est surtout ça.
Donc plutôt des thérapeutes.
Comme vous, voilà, on se connaît pas, on ne se voit pas dans la rue demain.
Mm-hmm.
Ça va, mais c'est pas toujours facile. Des fois, ça m'arrivait. Il y a longtemps, j'avais tendance à me confier un peu. Puis après, je me disais, oula, je l'ai dit. Est-ce que, parce qu'il y a aussi. Moi, par rapport à mon travail, pendant 20 ans, j'ai été conductrice d'autocar.
Oui.
Et pendant 20 ans, j'avais toujours cette frayeur. Je me disais, mais s'il m'arrive un truc, si je prends mes médicaments, s'il m'arrive un truc, on va mettre ça sur le dos. Enfin, voilà, j'ai la responsabilité des personnes. Et c'est pour ça, si je m'interdisais de prendre mon traitement, parce que j'avais peur qu'après, on m'en veuille, quoi, quelque part.
Oui.
Et... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. que malheureusement, dans les accidents d'autocar, à chaque fois, c'est est-ce qu'il a bu, est-ce qu'il a fumé, est-ce qu'il a pris ceci, est-ce qu'il n'a pas fait cela. Et puis on sort avec les bracelets, puis on rentoule.
J'ai oublié de vous poser une question, d'ailleurs, que beaucoup doivent se poser ce soir. Est-ce que les hommes qui vous ont kidnappé ont été attrapés?
Non, jamais, parce que forcément, malheureusement, j'étais amnésique, donc je n'ai pas pu... J'ai pas pu les décrire. Et après, c'était trop tard. Enfin, il y avait un délai de 10 ans, 20 ans, je ne sais pas trop. Et puis, j'avais trop peur, quoi. Enfin, comme je ne savais pas trop, c'est compliqué. Déjà, il fallait que je me reconstruise moi-même. Je ne me voyais pas aller. Bizarrement, mes parents, ils ont reçu des coups de fil un peu anonymes une période. Et puis, un jour, ma mère a balancé comme ça, en bluffant, « Oui, de toute façon, vous êtes sur écoute », comme on disait à l'époque. Et puis, bizarrement, par la poste, j'ai reçu mes papiers d'identité. Et puis, ça.
Ah oui.
On n'a jamais su. Ça avait été posté, une boîte postale, enfin, il n'y avait rien, il n'y avait pas de nom, il n'y avait personne. Plus posté comme ça, dans une lettre.
Quel impact ça a eu sur votre vie, en fait?
Moi, j'ai pris un virage à 360 degrés.
Vous avez réussi à faire votre vie? Est-ce que vous êtes mariée? Est-ce que vous avez eu des enfants?
Oui, je suis mariée, j'ai des enfants. J'ai pas fait du tout ce que j'avais envisagé, quoi. Ça m'a complètement chamboulée. Moi, depuis que j'avais 5 ans, je vivais que pour le sport. Je me levais le matin, je pensais au sport, je me couchais le soir, au sport. Il y avait que ça qui, dans ma vie, quoi. C'était ma passion. Et puis, suite à ça, c'est devenu autre chose, quoi. Déjà que je me reconstruis, c'est très long, de se reconstruire.
Et avec vos enfants, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes dans la crainte que l'un d'eux... D'abord, vous avez combien d'enfants, en fait?
Deux.
Comment ça s'est passé avec vos enfants?
Par rapport à cette bipolarité,
est-ce que ça...
il y a eu des épisodes où... Oui.
Pardon ?
Une fois que j'avais disparu, on m'a retrouvé longtemps après. Disparaissait.
Vous disparaissiez ?
Et on me retrouvait... Bizarrement, je disparaissais à Paris. Et on me retrouvait souvent aéré dans Paris, parce que je pense que inconsciemment, j'allais chercher... mon histoire. Et puis bon, on me retrouvait souvent à l'hôpital, quoi.
D'accord.
Et c'est pas grave.
Et ça, donc pour vos enfants, comment ça s'est passé quand vous aviez ces crises-là?
Eux, ils ont été protégés. Enfin, bien sûr, il y a eu des grandes périodes de peur, forcément, pour eux. Mais après, on leur a expliqué ce qui se passait. Quand ça recommençait, après, ils avaient toujours peur, mais c'est à cause de ma maladie.
D'accord. Vous dites que vous avez été 20 ans chauffeur de bus, hein, c'est ça? Pas de problème non plus dans le boulot?
J'ai arrêté justement parce que j'étais agressée. Je faisais des lignes régulières pour la SNCF et puis... J'ai été agressé verbalement plusieurs fois, ça a failli en venir aux mains. J'ai eu le temps de taper la police, ça a calmé le jeu, ça a pas été violenté physiquement, ça s'est joué à pas grand chose. Et c'est suite à cette dernière agression que j'ai dit j'arrête. J'arrête non seulement par rapport à l'agression, puis aussi c'est que je me suis dit c'était le bon moment justement de prendre des traitements.
Qu'est-ce que vous diriez ce soir à celles et ceux qui vous écoutent et qui souffrent, en tout cas ont été diagnostiqués il n'y a pas si longtemps que ça, donc d'être bipolaire? Quel conseil vous leur donneriez par rapport, à l'hygiène de vie, par rapport au traitement même? Est-ce que vous auriez des choses à leur dire?
Il faut avoir une hygiène de vie quand même... relativement saine, c'est-à-dire éviter au niveau du sommeil surtout, de pas faire le yo-yo. C'est super important. Parce que une nuit blanche, deux nuits blanches, trois nuits blanches, et puis ça y est, c'est reparti. on repart pour un tour, quoi, dans l'exaltation. Donc ça, c'est super important. Je ne veux pas dire qu'il faut se coucher à 8 heures tous les soirs, mais faire attention quand même d'avoir entre 6 et 8 heures de sommeil par nuit. Et puis, ben, comme je disais, les émotions trop fortes, on peut être bien entouré. Pas toujours simple.
Vous avez été bien entouré, vous, en fait ?
Ah oui, moi j'ai une super famille.
Ouais.
Bon, l'avantage, c'est qu'à l'époque, j'ai pu compter mes amis sur le doigt d'une main. Et à l'époque, c'était plutôt l'inverse avant.
C'est-à-dire, en fait, que naturellement...
C'est-à-dire que suite à ça, tu fais beaucoup de ménage. Parce que quand il vous arrive un gros truc comme ça, parce que bon, bah, moi je passais une fois par semaine dans le journal. Du jour en main, bah, on ne voyait plus. Donc, bon. Après, ça a été rapide. Hein. Quand vous êtes un peu connu, bah, les gens, ils vous ont limite, ils vous poussent un peu comme vous. Hein. Ils vont vous voir dans la rue et puis, bonjour, ça va, même si on n'était pas. Et bah, après, quand il vous arrive un peu comme ça, bah, il n'y a plus que vos vrais amis. Voilà.
Ah oui, vous avez senti.
Et on ne soupçonnait pas qu'étaient des amis, mais finalement, ah bah tiens, c'était des amis, on ne le savait pas. Ça, c'est des fois bien. Mais c'est surtout la famille, pour moi.
Et cette réaction, en fait, à votre avis, vous avez senti que des gens étaient mal à l'aise avec cette maladie ?
Ah bah oui.
D'accord.
Ah bah bien sûr. Ils ne me comprennent pas. Enfin, puis je comprends qu'ils ne comprennent pas, mais...
Ils avaient peur ?
Oui.
Peur, c'est un peu de la peur ?
Oui, je pense. Oui, je pense qu'ils ont peur. Ouais. Après, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Hein. Mais bon, si on n'essaye pas de comprendre, voilà. On laisse des gens sur le chemin, c'est dommage. Parce qu'on vaut autant que les autres. On n'a pas choisi.
Bien évidemment. Et donc, du coup, le sport à haut niveau, ça a été totalement terminé avec ça ?
Bah ouais, ouais. J'ai essayé plusieurs fois de raccrocher, mais j'arrivais pas.
Pourquoi ?
Non, trop de... Bah, quand on est cassé psychologiquement, enfin moi quand je gagnais mes courses, c'est, comme dit souvent mon entraîneur, c'est mon mental. Mon mental, il en avait pris un coup. Le physique, il était là, mais puis avec les 20-30 kilos que je prenais, enfin que j'avais pris, c'est même pas les rats, enfin, c'est horrible.
Oui, c'est l'inconvénient de ces traitements, c'est sûr.
Allez.
Merci beaucoup, Steph, pour votre témoignage ce soir, parce que c'est vrai que...
Je voulais donner une petite phrase que j'avais écrite à la fin de mon livre. Mm-hmm. Parce que j'ai écrit une petite autobiographie pour les gens que ça intéressait. Et que j'ai publié moi-même, que j'ai posté. Enfin, juste comme ça, les gens que ça intéressait, mon témoignage, leur
Allez-y.
Bouquin. Et donc, j'avais mis une petite phrase, « Quand tu as traversé l'enfer, continue d'avancer. » Donc, il paraît que c'était un petit peu de Winston Churchill.
Très bien. Mais écoutez, merci pour cette petite phrase, merci pour ce témoignage et puis portez-vous bien, ma chère Steph.
Merci.
Bonne nuit, au revoir.
Bonne soirée, au revoir.
Il est 7:00 sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. N'hésitez pas, vous pouvez continuer d'essayer de nous joindre au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous envoyer vos SMS au 7-39-21, suivi du mot « nuit » écrit en lettres majuscules. Suivi d'un espace. Et nous accueillons maintenant Eliane au 39-21. Bonsoir Eliane.
Je suis contente de vous entendre. Je vous appelle parce que j'arrive pas à m'enlever de la tête une dame qui s'appelait Magali, je crois, la semaine dernière.
Oui.
Qui a appelé, je crois qu'elle habitait Angers et que son fils faisait des études à Rennes et qu'elle passait son temps à ruminer des vieilles histoires du passé. Et elle se faisait harceler par sa famille, et elle allait très très mal,
oui,
elle était malheureuse.
Oui.
Vous vous souvenez d'elle, et elle n'arrêtait pas de se dévaloriser, et de dire que c'était de sa faute.
Oui, je me souviens très bien. Oui.
Et je ne peux pas me l'enlever la tête, parce que j'étais comme elle il y a 10 ans, en fait. Et puis j'en suis sortie toute seule comme une grande, j'étais pareille. J'arrêtais pas de me dévaloriser, j'arrêtais pas de ruminer sur le passé. J'arrêtais pas de... Voilà, vous voyez, j'étais vraiment dans le 36e dessous. Et puis, ben voilà, il s'est passé des choses dans ma vie. J'ai eu des gros problèmes de santé. Et après une opération assez grave, quand je me suis réveillée à l'anesthésie, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas continuer ma vie comme ça, quoi. Il va falloir que les choses changent. Je veux plus être victime, je ne veux plus me laisser faire. Il faut que faut trouver une solution parce que voilà, c'était j'accumulais les galères et tout, et il m'a dit bah non, il faut que je fasse quelque chose. Donc je me suis dit je ne vais pas aller voir tous ces gens là qui sont censés vous aider, vous apporter du bien-être, du bonheur, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Ouais. Quel type de quelle personne parlez-vous par exemple?
Ah bah il y a certains psychothérapeutes, parce que j'ai donné dans la psychothérapie et j'avais vraiment l'impression que c'était de la conversation de salon. Et ça ne m'a pas du tout aidé ni quoi que ce soit, quoi. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Je suis même allée voir un chaman, vous vous rendez compte, j'en étais arrivée là, quoi. Donc, que lui m'a expliqué, qu'il m'a dit bien évidemment ce que j'avais envie d'entendre. Mais ce genre de personnage, vous voyez, tous ces gens qui ont des... qui prodiguent enfin, les gens qui vont embrasser les arbres, les gens qui chantent à la lune le soir. Oui,
oui.
Ça n'apporte rien, en fait.
Pour certains, cela peut être... je ne dis pas que ça marche, mais cela peut être une manière de se stimuler l'esprit, d'un début de stimulation. Je ne suis pas du tout contre... n'importe quelle option, vous voyez. En fait, c'est ce que je disais à Magali la semaine dernière. Essayez de faire des choses pour vous, des choses qui vous font du bien. Lorsque vous évoquez ces gens qui embrassent les arbres, qui enlacent les arbres, je sais que beaucoup, ils trouvent leur compte. Et voilà, et je le dis souvent, chacun fait ce qui lui plaît. Je pense que ça n'était pas votre truc à vous. Mais l'important, c'est qu'à l'époque, vous avez visiblement su... à l'épuiser quelque part. Donc,
J'ai essayé. Mais bon, quand on rentre chez soi le soir et qu'on ferme la porte, eh ben, on retrouve ce qu'on avait avant. Et ça va... Sur le coup, c'était bien, c'était sympa, on s'est fait plaisir. Mais après, le soir, le lendemain matin, ben, on retombe dans nos habitudes, nos façons de penser, nos façons de se comporter, de réagir et tout. Et il faut retourner voir les gens, retourner faire des choses pour se sentir mieux. Et je voulais pas de ça, en fait. Je voulais trouver une solution plus personnelle, plus interne. Vous voyez, c'est...
Oui.
J'essayais de m'en sortir toute seule, en fait.
Et est-ce que ça a marché, toute seule?
Ouais, bien sûr que ça a marché. Ouais. Ah oui, ça... Bah, écoutez, là, je suis positive. Voilà. Du jour au lendemain... Enfin, pas du jour au lendemain, ça m'a pris des années, ça m'a pris des mois. Mais c'est... Je me suis accrochée à cette idée que je pouvais m'en sortir toute seule. Alors, à l'époque, comme j'allais mal et tout, c'était comme Magali, je prenais tout un tas de psychotropes de toute espèce, hein, voilà, comme beaucoup de gens. Pour se calmer, les médecins, ils vous disent, bah, prenez ci, prenez ça, ça va vous faire du bien. Bon, c'est vrai qu'on est des zombies, donc on ne se rend pas trop compte de ce qui se passe autour de soi, mais on agit, quand on vit, quoi. J'allais au boulot, je rentrais à la maison, je faisais ce qu'il fallait, etc. Mais ce n'est pas une vie, ça. C'est vraiment... C'est artificiel. On se sent plus ou moins bien, mais on sait très bien que c'est pas naturel, bien évidemment. Donc ça ne peut pas, à long terme, je veux dire, je me voyais pas prendre ce genre de truc pendant 40 ans ou 20 ans, 30. Vous voyez, je voulais trouver un truc. Alors j'ai décidé d'arrêter toute seule de prendre tous ces psychotropes.
Oui.
Déjà, j'ai commencé par ça.
Mmh.
Et comme il ne faut pas arrêter toujours en main, parce que bien évidemment c'est dangereux, j'ai été voir sur Internet comment il fallait faire pour les arrêter. Et puis l'un après l'autre, ce qu'il faut faire, c'est au lieu d'en prendre un tous les matins, il faut en prendre un jour sur deux, un jour sur trois, un jour sur quatre, un jour sur cinq, un jour sur six et un jour sur sept. Donc ça prend quand même plusieurs semaines, parce que pendant une semaine, on en prend un jour sur deux, la semaine d'après, on en prend un jour sur trois, et vous voyez. Puis après, on arrête de prendre ce fameux comprimé, et on en attaque un autre, qu'on prenait par exemple le soir ou le midi, n'importe. Et pareil, de la même façon, première semaine, on en prend un jour sur deux, après la deuxième semaine, un jour sur trois, un jour sur quatre, un jour sur cinq, et finalement, on arrête. Et on se rend compte que ça n'a pas d'effet vraiment... sur notre ressenti et sur notre vécu, en fait. On sent pas vraiment la différence. Et donc, j'ai arrêté tous ces trucs que je prenais. Là, ça m'a pris plusieurs mois. Et puis après, je me suis dit, bon, ben ça, c'est fait. Alors déjà, j'étais beaucoup plus lucide au quotidien, bien évidemment, parce que au boulot, tout ça, j'ai senti la différence, hein, parce que je prenais plus tous ces médicaments, tous ces trucs-là. Et je me sentais beaucoup mieux. Et après, j'ai dit, bon, ben ça, c'est réglé. Maintenant, je vais mettre de l'ordre dans ma vie. Et j'ai commencé par mettre de l'ordre chez moi, tout simplement, parce que c'était le bazar. Il y avait des fringues partout, le ménage...
Comme chez Magali, vous avez raison, ça fait résonance à ce que Magali nous a raconté la semaine dernière.
Ouais. Bah oui. Et donc, après, j'ai dit, j'ai fait le ménage chez moi, donc je fais du rangement. Ça m'a pris plusieurs week-ends, hein. Comme je travaillais toute la semaine, ça me prenait des week-ends entiers. J'ai fait j'ai jeté, j'ai rangé, j'ai lavé, j'ai mis de l'ordre partout. Alors, en mettant de l'ordre dans mon appart, j'ai mis de l'ordre dans ma tête. Ça m'a occupée pendant des journées. Et après, je me sentais bien chez moi parce que c'était nickel, c'était sympa, c'était agréable. On avait envie d'y vivre. Donc déjà, j'avais du plaisir à rentrer chez moi le soir parce que j'avais fait le ménage chez moi tout simplement. Il n'y avait pas de fringues qui traînaient partout. Donc, ça ne tient pas grand-chose. Hein. Et ça ne coûte rien. Donc ça, c'était le deuxième tri que j'ai fait, c'est le tri dans ma vie quotidienne. Et après, j'ai fait le tri dans mon carnet d'adresses.
Ah
bah oui. Alors, je suis bien élevée, on m'a bien élevée, on m'a toujours dit d'être polie avec la dame et le monsieur et de ne pas faire d'esclandre. Donc, les gens dans mon entourage, que ce soit professionnel ou amical ou familial ou autre, qui passaient leur temps à se plaindre, à râler, voilà, qui était négatif, et bien petit à petit, j'ai arrêté de leur parler. On m'envoyait des messages, je répondais, mais quand on m'invitait, je disais non. Et pour x, y raison, mais j'ai arrêté de côtoyer ces gens-là qui étaient négatifs. Mmh. Tous ces gens-là, sans le savoir, ils avaient une emprise sur moi. Vous voyez, tous ces gens, que les gens me parlent en bien ou en mal, ils avaient une emprise sur moi. Et les gens qui me parlaient, qui était négatif, moi aussi je le devenais. Moi aussi je commençais à me plaindre et j'en rajoutais trois couches, vous voyez. Donc c'était pareil. Donc il a fallu que je me débarrasse de tout ça. Donc j'ai fait le tri dans mon carnet d'adresses. Ces gens-là, ils ont essayé. Ils ont vu que ça ne marchait pas. Ils ont arrêté. Maintenant, ils ont passé à autre chose et aussi ils m'ont oublié. Mm-hmm. Donc j'ai fait le tri même au niveau de ma famille, au niveau de tout ça. Il y a des gens que je n'ai pas envie de voir, quoi. Puis je ne vais plus. J'ai essayé de plus aller voir, et puis je pense que c'est réciproque. J'en sais rien, j'ai pas essayé de comprendre, mais je fais ça sans donner d'explication, en fait. J'ai changé toute seule dans mon coin, sans m'étaler et sans raconter ma vie à tout le monde, sans le dire à tout le monde. J'ai fait ça toute seule, pour moi, parce que c'était pour moi, hein. Je voulais me faire plaisir à moi, et je ne voulais pas que tout le monde soit au courant. C'est vrai qu'à l'extérieur, on me voyait tous les jours, on voyait pas que je changeais. J'étais en train de changer, mais je changeais. Au fond de moi, j'étais différente. Et donc, j'ai fait le ménage autour de moi, dans mes relations et tout ça. Et puis, je me suis posée, je me suis dit, maintenant, je vais m'occuper de moi, je vais me faire plaisir. Alors, je n'ai pas été riche, hein, je n'ai jamais été riche, j'ai toujours été au SMIC toute ma vie, donc je n'ai jamais eu trop d'argent. Mais je me suis dit, alors c'était avant le confinement, tout ça, parce que ça m'a pris plusieurs années pour en arriver là. Donc, je me suis dit, je vais me faire plaisir, qu'est-ce que j'aimais ? J'aimais bien le culturel, les musées, les choses comme ça, certains films. J'allais au cinéma, mais j'allais pas voir les blockbusters américains. Je choisissais vraiment des films que je savais allaient me plaire. Je me faisais des petits tranquilles toute seule dans mon coin, sans rien dire à personne. Je prenais le train le matin, je revenais le soir. J'allais dans d'autres régions de France. Je découvrais autre chose, je voyais autre chose, je m'ouvrais l'esprit sur autre chose. Et je revenais, j'étais contente de mon petit voyage. Vous voyez, c'est des petites choses. Alors, j'allais pas très loin parce que j'ai pas trop de sous, mais j'ai dit de me faire plaisir. Et si autour de moi, bon, pareil, mes collègues, tout ça, ils sont du genre à raconter leur malheur, raconter leur vie, les histoires de gamins, de mari, de belle-mère et tout ça, j'essayais même pas de les écouter, je les fuyais en fait, parce que avant, que ce soit au réfectoire ou n'importe, on écoute les gens poliment, mais là, j'avais décidé que c'était terminé. Je n'allais plus écouter tous ces gens-là. Parce que ils étaient trop négatifs pour moi, donc je ne voulais que du positif autour de moi. Et aussi, après, quand j'avais fait le tri, tout ça, tout autour de moi et tout, que je commençais à me sentir mieux et à penser à moi, à m'occuper de moi, tout ce qui était télé, radio, machin comme ça, c'est pareil, j'ai fait le tri. Ça fait 5 ou 6 ans que je ne regarde plus les infos, que je n'écoute plus les infos à la radio. Je ne veux pas savoir ce qui se passe. Je le sais parce que les gens en parlent autour de moi, donc automatiquement, je sais ce qui se passe. Mais j'entends simplement ce qui est absolument nécessaire et indispensable. Comme là, pour le confinement, comme il se passe des choses, je suis quand même obligée de me renseigner. Mais j'écoute la radio, là, comme à Europe 1, ça dure 5 minutes toutes les heures. J'écoute les 5 minutes et après, je passe à autre chose. Et Et la télé, c'est pareil. Je ne regarde plus toutes ces émissions qui font peur, qui font envie, qui font honte et qui font vendre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je ne regarde que des émissions sympathiques, des trucs, voilà, la nature, les animaux, les machins. Mais j'essaye d'éviter tous ces trucs qui font du mal.
Oui, qui angoissent.
Qui sont anxiogènes. Et pas simplement anxiogènes dans le sens qu'ils font peur, parce qu'il y a des émissions qui font peur, bien évidemment. Ça les amuse tous d'aller voir les flics défoncer les portes dans le 9-3 et ça fait rire tout le monde. Moi, je trouve pas ça intéressant. Moi, j'aimerais bien aller voir défoncer les portes dans le 16e, mais je pense qu'ils le feront jamais. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais donc, il y a des émissions comme ça qui sont anxiogènes. Il y a des émissions aussi qui font honte, c'est-à-dire... On va interviewer des gens qui ont des problèmes, etc., et qui élèvent mal leurs gosses. Alors, on envoie le grand frère élever les ados, et puis on envoie la nounou élever, montrer comment élever les gosses et tout ça. Ça c'est faire honte aux gens, ça. Ouais. Je trouve que ça ne devrait pas exister. Mm-hmm. Parce qu'on met les gens en face leurs faiblesses, leurs difficultés, et puis bon, sans connaître vraiment. Ce qu'ils ont en eux, d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait, ils font de leur mieux, ces gens-là, mais on leur met quand même devant la télé, tout ça, on leur montre qu'ils sont incapables quelque part, voilà, ils ne trouvent pas ça bien,
ouais,
quoi.
Ouais. L'émission Panique en cuisine, là, souvent ça me met assez mal à l'aise, en fait, ce type d'émission.
Bah, je ne regarde pas Panique en cuisine, parce que moi, la cuisine, je m'en fous, je ne cuisine pas,
non,
ça ne m'intéresse
pas.
C'est une émission, je ne savais pas que c'était une émission aussi qui pouvait être anxiogène, je ne sais pas.
Non, mais j'aime beaucoup Philippe Etchevez, par moments, en fait, je trouve ça assez brut, la manière dont il parle à des gens qui sont, dans des restaurants où ça part un peu à volo, et il leur réexplique comment... remettre de l'ordre dans tout ça, mais la manière dont il le fait, c'est assez brut de pomme, quoi. Et à chaque fois que je tombe là-dessus, ça me saisit. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui me met mal à l'aise.
Enfin, je ne sais pas, je ne connais pas le nom, mais c'est ce monsieur qui hurle, parce que j'ai vu des zappings et des machins comme et c'est lui qui hurle sur les gens comme ça.
Oui, il n'est pas content. Il n'est pas content.
Ah ouais, non. Ah oui, non, mais ce genre de truc, c'est pour ça que je ne regarde pas. Parce que quand j'ai vu cette espèce de personnage hurler sur des gens alors qu'il n'avait fait de mal à personne, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il lui prend, quoi. Il y a quand même d'autres façons de s'exprimer, quoi. Donc, bon, voilà. Bon. Donc, ça pour vous dire que tout ce genre d'émissions, machin, moi, je zappe tout ça. Je peux pas, quoi. Et les émissions qui nous font envie, bah, c'est toutes les émissions bling bling qui nous montrent les gens qui vivent au bout du monde, qui fréquentent les palaces, etc., qui réussissent à Las Vegas ou je sais pas où. Mais on s'en fout, quoi. Nous, on vit dans notre banlieue et on gagne 1000 euros par mois. Et qu'est-ce que ça nous intéresse? Enfin, je veux dire, moi, ça m'intéresse pas, ce genre de truc.
Je comprends.
C'est 80% des gens, ils iront jamais à Las Vegas ou ils iront jamais aux Maldives et tout ça. Qu'est-ce qu'ils en ont? Alors, ils veulent, soi-disant, qu'ils veulent faire rêver les gens. Ça fait pas rêver les gens, parce que moi, ça me fait pas. Ce genre de truc, ça m'a jamais fait rêver de voir.
Ça crée de la frustration pour vous?
Plus que, c'est pas de l'envie, parce que les gens, il y a beaucoup de gens qui disent, moi, je pourrais jamais aller là-bas. Alors voilà, donc en fait, la télé est pas faite pour les gens vraiment, les gens qui la regardent, c'est fait par des gens qui veulent se faire plaisir, vous voyez. En fait, c'est fait par des gens qui montrent eux ce qu'ils font, ce qu'ils pourraient faire, parce qu'ils ont les moyens de le faire, donc ils montrent un petit peu les endroits qu'eux, ils connaissent. Ils montrent les choses qu'eux, ils aiment, et puis ils ne pensent pas aux gens qui regardent.
Il y a plein de choses, hein, vous savez, à regarder. Il y a des documentaires, il y a des documentaires animaliers, il y a des documentaires géographiques. On peut trouver en tout cas des chaînes qui correspondent à une envie de voir aussi, de voyager, c'est sûr, mais par les images. Hein. Je ne pense pas que ça soit une envie de frustrer les gens, par exemple, ça. Mais par contre, je suis parfaitement d'accord avec vous que les trucs bling-bling, les voyages à Las Vegas...
Ah oui, non, mais bon,
les
c'est tout, quoi. Le mec qui... Oui, non, mais voilà. Donc, mais ça fait du mal aux gens qui sont dans leur canapé et qui n'ont pas trop de moyens et qui regardent ça. Alors, bon, ils le regardent parce qu'ils ont l'habitude de regarder. Je nommerai pas les chaînes parce que, voilà. Donc, il y a des chaînes que je ne regarde jamais. Ça, c'est clair.
Bon, si, vous pouvez les nommer.
Ah non Bah déjà, Stéphane, c'est niette, archi niette et 100% niette, c'est même pas possible. Mm-hmm. Ça, c'est pas possible. Enfin, bon, M6, c'est des gros pointillés. Hein.
Ce que j'aime bien,
il y a un truc. Je vais vous dire ce que j'aime sur M6, c'est le scène de ménage. J'adore scène de ménage.
Bah mais bon, voyez, à part ça, il n'y a pas... Vous voyez, il hein y a quand même des choses qui vous plaisent.
Oui, mais parce que ça me fait rire, que mm-hmm. c'est positif. Vous voyez, c'est pas anxiogène. Donc, non, regarde quand même un peu. Bah, comme je suis confinée, que je ne peux pas trop sortir, moi, vu mes problèmes de santé, voilà. Avec, je suis obligée d'être confinée, donc je regarde la télé. Mais bon, à part ça, c'est vrai que j'hésite toutes ces émissions qui font mal, qui font du mal, en fait. Qui font plus de mal que de bien aux gens, en fait. Et des gens qui ont déjà des soucis, qui ont des problèmes, qui ont des angoisses, des inquiétudes, et on leur claque des trucs comme ça à la télé, c'est pas bien. Je trouve que c'est pas net. Hein. Franchement, c'est pas bien. Enfin bon, après, bon, c'est tout. Hein. Il y a sûrement de la clientèle pour ça. Mais c'est pareil pour la radio. Vous savez, j'écoute plus les radios françaises. Moi, j'écoute la RTBF. Ils sont formidables, les Belges. Ils sont positifs, ils sont drôles, ils ont de l'humour et ça fait du bien. Mais aussi, ils ont le Covid, mais bon, ils en parlent. Mais je veux dire, ils le font d'une manière sympathique et détendue.
Les Belges ont un sens de la dérision et il y a un combiné de choses chez les Belges. Il y a d'abord, sont des gens très bien élevés, je trouve. Il y a beaucoup d'éducation. Ouais. Il y a beaucoup de bah, ils ont hérité aussi de plein de choses, des bonnes choses de la Hollande, vous voyez, des Pays-Bas, de toute l'Europe du Nord, en fait. Et puis ils ont pris aussi des bonnes choses méridionales de la France, de la Suisse,
c'est
de l'Allemagne.
Ouais. Enfin, bon, c'est ouais. Ils ont pris les bonnes choses des pays qui les entourent, en fait.
Exactement, exactement.
Et puis en plus, c'est un royaume. Alors, je ne voudrais pas dire que voilà, il faut un royaume pour aller bien. Non. Mais déjà, je vais vous dire pourquoi c'est bien un royaume. Parce que il y a une figure tutélaire qui est au-dessus des partis, au-dessus de tout, et qui est, c'est intemporel, quoi. Les droits se succèdent. C'est comme la reine d'Angleterre, je veux dire, tout le monde l'a connue. Je veux dire, c'est intemporel. Et s'il n'y avait pas la reine d'Angleterre, il y a longtemps que l'Angleterre serait à feu et à sang, il y aurait des guerres civiles là-bas. Mmh. Mais ce qui maintient le pays dans son unité, c'est cette personne qui domine tout, qui change pas et qui est rassurante et qui fait la fierté du pays et son unité. Et les Belges, c'est pareil, quand ils parlent de leur roi, bah ils ont du respect. C'est mon idée. Hein, ça, on en pense qu'on veut, mais ce sont des gens qui sont rassurants pour leur population. Hein, quoi qu'il arrive, il y a toujours le roi derrière ou la reine. Enfin. Il y a quand même un espace où quand même rien ne change et tout va bien, quoi. Donc, bon, nous, on n'a pas de roi. Bon, on a des présidents. Alors, ils changent régulièrement, mais ben voilà, bon, on fait avec. Mais je trouve que d'avoir quelque chose d'intemporel dans une culture, ben, je trouve que c'est bien quand même.
Bon, il en faut de toute façon pour tous les goûts, hein, ma chère.
Oui.
C'est sûr que il y a des émissions à succès et je pense que il y a des gens qui se retrouvent un peu dans tout les goûts et les couleurs vous savez c'est...
Oui, je dis pas je critique pas, je dis pas que c'est mal ni quoi que ce soit. Je dis que moi c'est mon choix parce que moi je veux me protéger de beaucoup de choses. Donc j'évite tout ce genre d'endroits, tout ce genre de trucs qui pourraient me contrarier d'une façon ou d'une autre, vous voyez, c'est pour ça. Donc mais les gens font ce qu'ils veulent, il y a aucun problème. Mais c'est vrai que Je prends beaucoup de distance sur tout, en fait.
Oui, vous voyez, en fait, je vais vous lire un SMS, là, au 739-21, de Marie Tam Tam, qui nous écrit « Bonsoir Pascal, je suis choquée de vous entendre critiquer un grand chef. Oui, il crie, mais il a aidé des amis restaurateurs et beaucoup bien d'autres. Vous avez raison, Marie Tam Tam. Et en plus, là, elle m'adresse un petit truc pour moi, et votre émission, on en parle. Appelez-nous, Marie Tam Tam, on peut en parler. » Il n'y a aucun problème. On n'est pas à critiquer. On dit juste qu'il y a des choses qui plaisent.
Oui, c'est des constatations. C'est juste...
Chacun retrouve dans des programmes... il y a des gens qui...
Oui,
aiment,
chacun regarde ce qu'il veut. Parce que les gens regardent la télé beaucoup. Donc, chacun regarde ce qu'il veut. Mais je veux dire si on veut se sentir mieux dans son quotidien en tant qu'individu, il faut savoir se détacher de certaines choses.
Et puis il faut savoir prendre ce qu'on a envie de prendre, surtout, et pourquoi, savoir pourquoi on le prend. Je pense que La télévision, la radio restent des médias qui, sur lesquels aujourd'hui, plus que jamais, on peut aller prendre de l'air aussi, un bol d'air. Encore une fois, je vois sur France 5, sur la chaîne Géo, il y a tout un tas de documentaires qui quand même vous parlent de l'histoire, du monde animalier.
Oui, moi j'aime beaucoup l'histoire, donc je regarde la chaîne Histoire, toute l'histoire et tout ça, j'aime beaucoup. Alors je ne regarde pas tout parce que tout ne m'intéresse pas, mais c'est autre chose que... Voilà, que TF1, quoi. Bon, je suis désolée, mais je reviens toujours à TF1 parce que c'est un exemple quand même assez connu. Et les gens regardent beaucoup TF1, mais franchement, dites-moi quelque chose de bien sur TF1. Enfin, je ne sais pas, je ne regarde pas, donc je ne peux pas juger. Mais est-ce qu'il y a vraiment des émissions qui peuvent vraiment...
Il y a Koh-Lanta qui est bien sûr...
Ah ouais. Ah non, oui, Koh-Lanta.
Je pense qu'il y a des gens qui se retrouvent vraiment dans Koh-Lanta où on a un retour... De toute une bande de garçons et de filles venant d'horizons différents, tout à coup, qui sont confrontés à l'abandon de notre société de consommation, de tout ce dont on a besoin dans la vie de tous les jours. Et en plus de ça, ensuite, qui sont confrontés à la stratégie, au jeu, tout ça mêlé au manque de nourriture. Moi, je trouve que sociologiquement, c'est un programme qui est très intéressant. Mais mais encore une fois, voilà, j'en parlais cet après-midi avec une amie et elle me disait, mais moi, je peux pas regarder ce genre de choses. Vous voyez, donc c'est moi, j'aime bien regarder. Je regarde pas depuis longtemps, depuis le confinement. Je vais vous dire, je suis tombé dessus pendant le confinement. Et ben, j'ai trouvé, j'avais jamais pris le temps de regarder. Et c'est vrai que, en tout cas, vous vous y prenez. C'est pas le jeu hein, qui gagne, qui perd, on s'en fout.
Oui, mais vous prenez au jeu, vous avez envie d'aller voir jusqu'au bout. C'est comme un feuilleton, en fait, vous avez envie de savoir, de voir la fin.
Oui, exactement. Et puis comment se comportent les uns avec les autres, pourquoi ils se comportent comme ça. Assez... voilà. Mais encore une fois, on s'est éloigné un peu de notre discussion originale, mais c'est vrai que ces médias-là peuvent être anxiogènes autant qu'ils peuvent être aussi un bon bol d'air, vraiment.
Ah oui, il y a des, je sais que je regarde des trucs quand même. Il y a des émissions qui sont sympas, c'est sûr, mais il faut bien choisir quoi. Faut regarder partout, faut tout. Moi, je zappe, j'ai un bouquet, bon voilà, pas très important, mais bon, je peux zapper quand même. Je trouve des choses intéressantes, mais bon. Il faut vouloir le faire parce qu'il y a des gens qui me disent oh ben moi j'ai l'habitude de regarder tel truc, je regarde quoi. En gros, c'est ça quoi. Donc,
du coup, en fait, pour revenir à Eliane, vous êtes sortie de tout ça, donc en faisant le ménage quand même au niveau des relations, au niveau donc des choses que vous écoutiez ou regardiez. Dans quel autre domaine vous avez été chercher de l'énergie?
À partir du moment où j'ai fait le tri, comme j'ai gardé comme ami, enfin, je ne parle qu'à des gens qui sont sympathiques, qui sont positifs et tout, donc c'est très bien. Ça m'aide au quotidien, bien sûr. Il faut, je vis pas comme un ours non plus. Hein. Donc j'ai gardé des relations, mais que des relations sympathiques. Mais pour le reste, c'est-à-dire que je me sens bien dans ma vie maintenant, hein, avec. Que j'ai, voilà, depuis que j'ai fait le vide et tout ça, et que je me drogue plus avec des médicaments et tout ça, je me sens bien dans ma vie. Et puis, ce qui se passe, surtout avec le confinement, moi j'ai bien vécu le confinement, hein, ça m'a pas embêté du tout, hein. J'ai dit cool, enfin j'ai pas dit c'est super, j'ai pas dit ça, mais je me suis dit bon, aujourd'hui c'est ça, c'est pas la peine, je me projette plus dans l'avenir, je ne fais pas de plan sur la comète, je ne me mets plus à la place des gens en disant ouais, qu'est-ce qu'il va penser machin si je dis ci, si je fais ça. J'ai dit oui, mais il faut que je fasse attention parce qu'il y a un truc qui va venir aussi, donc il ne faudra pas que je lui parle d'oxy, de ça. Oh là là.
Vous avez lâché prise sur pas mal de choses quand même.
Ah ben, ça, c'est ce genre de truc, je ne me projette plus, c'est terminé.
Ah oui, ça, c'est une très bonne chose. Vous vivez, vous vivez chaque jour, un jour à la fois.
Alors, tout le monde le dit, ça fait des dizaines d'années qu'on nous le dit, il y a eu Carpe Diem, il y a eu chaque jour suffit sa peine. Vous voyez toutes ces formules toutes faites là. Mais quand on les vit au quotidien, c'est formidable. Vous voyez, c'est... Ouais, vous voyez, j'ai perdu mon téléphone aujourd'hui. Je l'ai oublié au supermarché.
Mm-hmm. Vous j'aurais l'avez pas pu posséder.
Si, je suis retrouvée, Ah, j'aurais pu par. Mon Dieu, mon téléphone. Ah, parce que voilà, en plus, j'ai toute ma vie dedans et tout. J'ai dit. Oh, je me suis dit, bon, j'ai perdu mon téléphone, qu'est-ce que j'ai fait? D'où je viens? Je viens du supermarché. Donc, j'ai repris mes clés, je suis à 5 minutes du supermarché. Je retourne au supermarché, j'ai été voir le vigile, j'ai dit, écoutez, j'ai perdu mon téléphone, je crois que s'il est quelque part chez vous, qu'est-ce qu'on peut faire? Il me dit, donnez le numéro, je vais le faire sonner. Et puis, on a fait le tour des rayons, là. Bah, je l'avais posé et on l'a retrouvé. Mais bon, je ne me suis pas mis la rate au courbouillon, comme on dit. C'est très bien. Je me suis dit, il n'est pas perdu. Bon, il y aura peut-être un petit malin qui va le voler, puis il va disparaître. Mais bon, c'est un téléphone. Mais il y aura peut-être des gens honnêtes aussi qui vont le trouver et puis qui vont le donner à l'accueil. Pourquoi pas? Et puis en fait, non, il était où je l'avais posé, parce que je sais plus pourquoi j'avais posé là. C'était dans un rayon quelconque. Et puis apparemment, personne l'avait vu. Et puis donc, avec le vigile, on l'a retrouvé en 5 minutes chrono, on avait retrouvé mon téléphone, je suis rentrée chez moi, j'étais contente. Mais ça ne m'a pas rendue malade, quoi. C'est vrai que c'était contrariant, c'est normal, hein. Un téléphone, on fait beaucoup de choses avec, c'était contrariant, mais c'est tout, quoi. Et puis je suis contente de l'avoir retrouvé, autrement on n'aurait pas pu se parler ce soir, parce que je n'en ai pas d'autre. Mais c'est vrai que, vous voyez, je ne dramatise rien.
Vous relativisez.
J'ai du recul, mais alors un recul...
Et vous n'étiez pas du tout comme ça avant?
Oh, mon pauvre, si vous saviez.
Ah bon?
Tout, je m'inquiétais de tout. Alors je m'inquiétais des autres, puis aussi je m'inquiétais pour les autres. Hein. Et machin, et truc, et... Je pensais pas à moi, en fait, je pensais aux autres. Je disais, oui, mais tu te rends compte, il vit seul, il a des problèmes de santé, qu'est-ce qu'il va... J'ai arrêté tout ça, j'ai arrêté. Alors c'est pas que je m'inquiète pas des gens. Mais je pense pas, mon cerveau n'est pas plein de tout ça, en fait. Mon cerveau est plein de choses qui m'intéressent, moi. Alors, c'est pas de l'égoïsme. Hein. Je m'occupe de moi. Je me fais plaisir à moi. Je m'entretiens, moi. Mais c'est pas de l'égoïsme, parce que je m'intéresse aux gens et tout. Mais dans ma tête, il n'y a que l'essentiel.
Oui,
voilà.
Et c'est ce que je disais à Magali la semaine dernière, c'est que pour aller mieux, en tout cas, il faut pouvoir se faire ce cadeau de s'offrir à soi-même des bonnes choses. Et puis, surtout, je lui disais aussi qu'elle avait ça dans ses mains, parce que personne, et vous allez me dire si oui ou non c'était le cas pour vous, mais personne, quand vous vous enfoncez comme ça, que vous êtes seul, personne ne va venir comme ça, par magie, vous tirer par la main.
Ce que je vous ai expliqué, là, ce que j'ai fait depuis que j'ai arrêté tout ça, c'est que j'ai fait ça toute seule. Ce que je vous dis, j'avais essayé il y a quelques années d'aller voir des gens, des toutes espèces de trucs. Et ça m'apportait. Et je me savais que la seule solution, c'était moi qui pouvais me l'apporter, ma solution à moi. Je suis la personne qui me connaît le mieux, on est d'accord. Mm-hmm. Donc, pour m'aider moi, il n'y avait que moi qui pouvais m'aider moi, quoi. En gros, c'est ça.
Quel âge avez-vous, Eliane, en fait? Je ne vous ai même pas demandé.
Mais quelle importance?
Non, mais si, c'est une importance, bien sûr.
C'est une importance pour vous?
Toute personne a une importance pour moi, et vous devriez...
Non, mais... Alors moi, je vais vous dire un truc. J'aime pas qu'on me... Je vais encore... Voilà. Qu'on me mette dans un tiroir par rapport à mon âge,
ça n'a rien à voir.
Mes origines, ce que je fais comme boulot et tout ça.
Je ne veux pas vous mettre
parce qu'en général,
tiroir.
Les gens, quand ils racontent leur vie, bah, après, on dit « Ah, bah, il a tel âge, il doit faire... » Vous voyez, on a tendance à cataloguer les gens.
Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que là, vous livrez un témoignage qui est écouté par des milliers de personnes et peut-être que beaucoup d'entre elles sont en train de prendre ici et là des choses importantes que vous dites. Et donc, du coup, je pense qu'il y a des périodes dans la vie où on est plus susceptible d'avoir ces sursauts de vie et d'avoir plus conscience des choses parce qu'on a réussi aussi à identifier tout un tas de choses qu'on n'identifie pas obligatoirement à 20 ans ou à 30 ans, selon... aussi si on a partagé sa vie avec quelqu'un ou si on est resté tout seul, ça ne veut pas mettre des gens dans des cases. C'est simplement important de savoir À quelle génération vous appartenez? Bah,
maintenant,
je
vais vous raconter un peu ma vie. J'ai 60 ans, donc c'est vrai que j'ai de la bouteille, j'ai vu des j'ai connu autre chose, j'ai été mariée. Je vais vous dire, hein, j'ai quitté mon mari parce que je lui avais dit, c'est une occasion aussi où j'ai pas fait de sentiment. Ça n'allait pas très bien entre nous. Je lui avais demandé de partir plusieurs fois. Il voulait pas. J'ai dit, si tu pars pas, c'est moi qui pars. Il n'a jamais cru que j'allais le faire. Il l'a cru le jour où il a vu le camion de déménagement dans le bas de l'immeuble. Il n'a jamais voulu croire que je le ferais. Et je l'ai fait.
Et c'est très bien, non ?
J'ai tout organisé toute seule. J'ai rien dit à personne. Et j'ai prévenu ma famille simplement un mois et demi avant de partir. J'avais tout organisé mon déménagement. J'avais tout organisé ma nouvelle vie. J'en avais jamais parlé. Et j'en ai parlé à personne. Même pas à mon mari, parce que lui, il croyait pas que j'allais partir. Donc voilà. Il disait, ouais, c'est du pipeau, tu n'y arriveras jamais, etc. Surtout qu'à l'époque, j'étais au chômage, j'avais pas un rond et tout. Mais j'en pouvais plus. Et comme il voulait pas partir, j'ai dit, moi, je vais partir. Et voilà, ça s'est décidé comme ça. Et je l'ai fait. Et ça s'est très bien passé. Et si j'étais pas partie, bah, je ne sais pas, peu importe ce qui me serait arrivé, j'en sais rien. Mais une chose est sûre, depuis que j'ai déménagé, je sens beaucoup mieux. J'ai changé de vie. Alors, ça n'a pas été évident. Après, j'ai vécu cette période où j'ai eu des problèmes de santé et tout. Mais je les ai vécus dans ma nouvelle vie, loin de cet homme. Et je l'ai très bien vécu. Et maintenant, vous voyez, c'est... Comment vous dire, je m'enfonçais quand j'étais avec lui. Il a fallu que je parte, donc je suis partie. Mais je n'ai pas fait de sentiment. Vous voyez, il ne faut pas... Faut pas se dire, oui, mais si je m'en vais, qu'est-ce qu'il va dire, machin, etc. Puis j'ai changé de région, en plus, donc c'était compliqué pour beaucoup de gens. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, ouais, si tu t'en vas, on te verra plus. Ben, je dis, si, quand même, je pars pas au bout du monde, donc on peut se voir. Mais j'en ai pas parlé avant, parce que je ne voulais pas que les gens me disent, mais pourquoi tu pars, et pourquoi tu restes pas, on va trouver une solution, nan, nan, nan. Je voulais que personne se mêle de tout ça, en fait. Je voulais faire toute seule, moi-même. Voilà. Vous voyez, c'est... Et j'ai tout organisé toute seule, en fait, et je suis partie. Et puis voilà, je ne regrette pas d'être partie. Donc
vous voyez, c'est important aussi de donner quelques précisions de ce qu'on a glané à un moment de notre vie. Parce que je pense qu'on ne réagit pas et on n'interprète pas les mêmes choses selon que l'on a 20 ans, 30 ans, 40 ans. J'ai tendance à penser que, passé la quarantaine, on relativise... On commence à relativiser beaucoup plus de choses. C'est ce que je constate, en tout cas d'une manière générale. Pas chez tout le monde, hein, mais tout de même, d'une manière générale, à partir de 40, 45 ans, je trouve qu'il y a une certaine analyse, une couleur, Enfin voilà, je ne trouve pas les mots en fait.
Oui, non, mais en fait, on se dit quand on a, parce que là j'avais 40 ans.
Voilà, les couleurs quand on se patinent. Comme
quand on dit
ma
vie, si c'est ça, le pour le reste de ma vie, si ça doit être ça, c'est pas possible quoi. Au bout d'un moment, c'est pas possible.
Voilà.
Moi, c'est ce que je me suis dit. Et j'étais sur mon balcon et justement, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. J'étais sur mon balcon et on était fin 98. Hein, et sur mon balcon et tout d'un coup, je me suis dit. Bon, d'une façon ou d'une autre, je ne verrai pas l'an 2000 sur ce balcon, de gré ou de force. Quoi qu'il arrive, je ne verrai pas l'an 2000 sur ce balcon. On était fin 98. Et j'ai déménagé au mois d'août 99. J'ai tout fait très rapidement. Et ça s'est bien passé.
Super, super.
Bon, en tout cas, à partir du moment où j'ai décidé de quelque chose... Je me mets à fond dedans, quoi. Mais comme je vous ai dit, je le fais toute seule. Parce que je ne veux pas qu'on m'influence ni dans un sens ni dans l'autre. Mmh. Je m'organise toute seule, et je fais tout toute seule et je le dis après, une fois que c'est fait.
Et j'entends que vous avez en tout cas acquis la certitude, pour vous en tout cas, que vous avancez beaucoup plus librement et beaucoup plus légèrement et beaucoup plus, de manière beaucoup plus constructive quand vous décidez pour vous, parce que vous avez pris conscience de tout un tas de choses, vous vous écoutez beaucoup plus, vous avez aussi percuté sur le fait qu'il fallait vous écouter plutôt qu'écouter les autres.
Voilà, c'est ça.
Vous ne vous écoutez pas que vous-même, parce que j'entends aussi que vous devez aussi partager par moments avec les personnes en qui vous avez confiance, mais vous avez restreint votre entourage a sans doute un entourage assez pas important, hein, restreint en tout cas, et que maintenant vous avez construit quelque chose de beaucoup plus solide et visible, c'est-à-dire que vous savez où vous êtes, avec qui, où vous en êtes, avec qui et où vous en êtes dans votre vie.
Ouais.
Et c'est justement ce qu'on entendait du témoignage de Magali la semaine dernière, c'est qu'elle faisait trop attention à sa mère, à sa sœur.
Ah, oui.
Elle pensait trop, elle accordait trop d'importance à tous ses jugements extérieurs.
Voilà,
elle n'était
plus
du tout centrée sur ce qu'elle pensait d'elle-même. Elle ne pensait plus rien de bon d'elle. Elle ne pensait qu'à travers le regard négatif des autres.
Elle disait, j'ai pas fait d'études, c'est pour ça que j'ai pas réussi. J'en ai pas fait, moi non plus, j'ai eu jusqu'au bac. Hein, j'ai rien fait. Je suis pas, voilà, mais j'ai quand même vécu des choses et je me suis dit, parce que bon, j'ai eu des périodes de haut et de bas comme tout le monde, où je me suis laissée enfoncer parce que j'écoutais trop ce qui se disait autour de moi. J'écoutais, voilà, je voulais faire plaisir. Quand on veut faire plaisir à tout le monde, on fait plaisir à personne.
Exactement.
Et en fait, il faut se faire plaisir à soi, en fait. Quand on se fait plaisir à soi, bon, autour, ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, ça, c'est pas grave. Mais à partir du moment où on se fait plaisir à soi, ben, tout va bien, quoi. C'est le plus important. Mais il y a une période de ma vie, c'est vrai, où je voulais pas blesser ma mère, je voulais pas blesser ma famille, je voulais pas blesser mes... Vous voyez, on pense à tout ça, on se dit, bah non,
c'est pas... Vous avez vu l'épaisseur, hein, de... Alors, je ne sais pas de quoi, mais en tout cas, l'épaisseur dont vous vous défaisez, dont vous vous libérez, plutôt, c'est plus joli, quand vous n'accordez plus d'importance et que surtout vous décidez que c'en est fini d'être blessé en permanence par ces réflexions, ces jugements. Souvent, en plus, les jugements que vous trouvez sans intérêt, en fait, et quand c'est émis en plus de gens qui sont proches de vous et même affiliés, hein, à vous.
De la famille et tout
dur,
ça. Ouais.
Voilà. Et Magali, ça passe d'abord par ça. J'espère, si elle nous écoute, qu'elle y a réfléchi et qu'elle elle aura eu la force de rompre ça, en tout cas momentanément. Mais souvent, ça passe par là, en fait. Ça passe par quelque chose d'assez... d'assez violent, en fait, hein, et violent pour tout le monde, hein, même ceux avec qui vous rompez, qui s'y attendent peut-être pas, qui ne comprennent pas vraiment même votre décision, mais n'empêche que c'est une sauvegarde, quoi, c'est sauf qui peut. Hein,
Et puis même si on prend des décisions comme ça, très tranchées, catégoriques et définitives, les gens ils disent, mais qu'est-ce qui lui arrive tout d'un coup, alors que c'est pas tout d'un coup, ça a été c'est une longue réflexion. Et puis ça, voilà. Mais ça n'empêche pas, c'est pas pour ça qu'on coupe les ponts, quoi. C'est pas parce que je fais ça et que je m'éloigne de 800 km des gens que je les aime pas.
Non, mais on peut couper les ponts aussi. C'est quelque chose qui. C'est une option aussi quand elle est nécessaire. Malheureusement, quand elle s'impose à vous, en fait, et que vous y. Vous constatez que ça n'a fait que d'assainir la situation et que ça vous a apporté de la quiétude. C'est souvent en plus très difficile de revenir en arrière, voire impossible.
Ah bah, c'est pour ça que je vous envoie des SMS de temps en temps pendant l'émission. J'ai un côté assez rentre-dedans et assez tranché quand je m'exprime.
Mais moi, j'aime bien. Ça, vous voyez, je citais Marie Tam Tam qui est franche du collier. Et souvent, elle y va gaiement et j'en prends, j'en ramasse au passage. Mais, mais je ne suis pas là pour qu'on me dise que des douceurs. Pour échanger. On n'est pas toujours d'accord. Hein.
C'est par rapport aux gens qui vous appellent. Des fois, je suis assez tranchée. Alors, je ne les connais pas non plus. Hein. C'est pareil, on peut en dire autant à mon sujet. Mais j'envoie des réflexions. Des fois, je fais pareil avec Sabine aussi. Hein. J'envoie des réflexions. Des fois, ça tire en deux lignes, mais c'est assez rentre-dedans et tranché. Et puis voilà. Alors, moi, j'aime
pas.
C'est
pas vous, hier soir, qui m'avez envoyé. C'est long, c'est chiant. Si?
Non, la dernière fois que je vous ai envoyé des trucs, c'était par rapport à un certain Christophe, justement. Alors, je préfère pas revenir là-dessus, parce que bon, voilà.
Non,
on n'est pas là pour ça. Il y a des fois, alors j'écoute l'émission, il y a des fois des choses, bon voilà, je réagis pas. Mais il y a des fois, je dis, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et c'est plus fort que moi, j'envoie un petit message.
Mais vous savez, ça encore, ça fait partie de l'adhésion ou pas. Comme on en parlait tout à l'heure pour les programmes. Il y a des témoignages qui vont vous vraiment vous toucher, et puis il y en a d'autres qui vont vous barber. Et encore une fois, c'est là où nous ici, on doit aussi faire en sorte d'écouter chacun, sans pour autant, enfin en tout cas, on fait attention à ce que ça ne devienne pas non plus barbant, mais c'est important que cette notion de pouvoir écouter tout le monde reste la règle aussi.
Oui.
Voilà, c'est juste ça. Eliane, vous pouvez me rappeler quand vous voulez et on discute sans problème. J'ai Sarah qui attend depuis un moment pour. Je vais prendre Sarah pour les 10 dernières minutes. Donc je vous embrasse.
Ok, bah moi aussi.
Bravo pour toutes ces décisions et pour
J'espère que ça va aider d'autres personnes.
Cette volonté fantastique. Moi j'aime entendre ça. Oui. C'est merveilleux, merveilleux.
J'espère qu'il y a d'autres personnes qui vont essayer de faire pareil. Alors c'est pas facile tous les jours, mais bon, voilà.
Vous avez plein de personnes qui vous écoutent ce soir et je leur dis encore en vous écoutant et en repensant à tout ce que vous m'avez dit, je dis souvent sur cette antenne que tout est possible, mais la première étape nécessaire, incontournable, c'est d'abord de le vouloir.
Ah voilà, ça je ne vous l'ai pas dit, mais c'est vrai que c'est une décision, il faut le vouloir et s'y tenir, quoi. Faut pas, c'est comme les gens qui font des régimes et que ça ne dure qu'une semaine. Ce genre de décision, c'est un truc qu'il faut décider, mais une fois que c'est décidé, c'est là, ça ne bouge pas tant qu'on n'a pas été jusqu'au bout, quoi. C'est ça.
C'est difficile. Souvent, ouais. on peut commencer et puis flancher, mais encore une fois, cette étape de le vouloir, parce que ça n'arrive pas par magie. Et quand je dis que c'est dans... c'est dans les mains de chacun, c'est vraiment dans les mains de chacun, c'est important.
C'est pareil, s'il y a des gens qui veulent mon numéro, moi je veux bien leur donner, hein, si ils ont envie de me parler.
Écoutez, voilà, le message,
voilà, c'est pas...
le message est passé, si vous avez envie de parler avec Eliane, eh bien, vous nous envoyez au 739-21 votre numéro et puis on vous mettra en contact.
Voilà, puis j'ai un petit conseil, voilà, par rapport à tout ça, ouais, pourquoi pas.
Très bien, et j'en profite pour citer notre ami Patrick Leroutier qui... n'oubliez pas de nous rappeler qu'il y a aussi vintage mécanique avec des gens qui font de la moto sur des dunes. D'ailleurs, Patrick, j'ai eu l'occasion de faire cette émission et d'essayer un vieux sidecar russe du début, début 20e siècle. Donc,
et ça roule encore.
donc du coup, vous voyez, il y en a pour tous les goûts. Merci mille fois, Eliane. Ah, c'est fini. Merci mille fois, Eliane. Parce que si je vous arrête pas, vous y allez. Et moi, je suis un peu pareil, donc je vais prendre Sarah maintenant, d'accord ?
Ok, je vous dis bonne soirée.
Je vous embrasse,
Eliane.
Et puis
à bientôt peut-être. Au revoir.
À très bientôt, quand vous voulez, Eliane. Quand vous voulez.
Pas de problème, je vous rappelle.
Au revoir.
Salut.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Minuit 51 sur Europe 1 et nous accueillons maintenant pour finir l'émission Sarah. Bonsoir Sarah.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Je vous appelle pour un sujet qui me tient vraiment à cœur.
Oui.
C'est l'associatif.
Oui.
Et en fait, je vous appelle ce soir parce que aujourd'hui, il se fait que je suis dans le groupe, que j'ai pas entendu une émission hier, mais que j'ai vu des messages aujourd'hui à propos d'un témoignage de Philippe. Hier, et oui. Philippe avait témoigné au mois de juillet, et j'ai contacté la Libre Antenne parce qu'il m'avait vraiment touchée, et qu'il se fait que j'ai été en contact avec lui, je l'ai aidé, je crois qu'il l'a dit hier, je ne sais pas, je n'ai pas écouté l'antenne.
Oui, il l'a dit à un moment.
Voilà. Avant de parler de l'associatif, je voudrais faire une courte parenthèse, parce que j'entends souvent parler à la radio. Je suis bipolaire, je suis borderline, je suis ça, je suis ci. Moi, j'ai été diagnostiquée bipolaire, borderline, avec un trouble de l'attention, avec hyperactivité. Donc là, j'ai bien cumulé. Moi, ce que je voudrais dire aux gens, c'est qu'on n'est pas une maladie. On n'est pas une étiquette. On est nous. Moi, ma mère est bipolaire. Ma mère a fait 10 tentatives de suicide. Elle a passé 8 ans en hôpital psychiatrique. Je suis bipolaire. J'ai un super boulot. J'ai bien entendu beaucoup de problèmes relationnels, etc. Mais ce que je voudrais dire aux gens, c'est qu'on n'est pas une maladie. On est avant tout nous-mêmes. Et on peut faire de nous-mêmes. Il y a plein de choses de ces maladies qui nous aident à donner, à faire des choses. Vous voyez ce que je veux dire ?
Parfaitement.
Et qui pour moi, je vais vous dire un truc, hein, à 20 ans, j'aurais pu me foutre en l'air. Voilà. Mmh. Et qui, pour moi, m'ont aidé. Moi, je ne voulais pas être ma mère, donc je n'ai jamais voulu voir un psychiatre. Au contraire, j'étais à fond, études, boulot, comme ça. Ma mère n'a jamais travaillé. Moi, je vais travailler, je vais être la meilleure de tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Vraiment faire l'opposé, ok ? Sauf qu'à un moment, ça pète, quoi. J'ai fait un burn-out, j'ai été complètement... voilà. Et là, on m'a fait des diagnostics que j'accepte. Et je prends des traitements, etc. Mais moi, je voudrais juste dire aux gens, on n'est pas une maladie. On n'est pas une étiquette. Il n'y a pas un bipolaire qui se ressemble. Il n'y a pas un borderline qui se ressemble. Il n'y a pas un autiste qui se ressemble. Et c'est juste quelque chose qui vraiment m'affecte, parce que je pense qu'en plus, nous tous qui avons certaines... voilà. On a à côté plein de choses qui sont des choses que beaucoup d'autres gens n'ont pas. L'empathie. Moi, quand je vois quelqu'un, je le sais, je le cerne en deux secondes. Ça m'aide au niveau professionnel, par exemple. En 30 secondes, j'ai cerné. Et les gens me disent, mais non, il n'est pas comme ça. Je dis, si. Et trois mois plus tard, ils le voient. Donc voilà, bref, ça c'était mon petit laïus sur ce côté-là. Mais je pense que c'est important que les gens ne se sentent pas « je suis bipolaire ». Vous voyez, ou je suis ça. Ils ne sont pas bipolaires, ils ne sont pas ça. Ils sont eux-mêmes avant d'être une maladie. Et chaque personne a tant à donner par rapport à ça. Et par rapport à on ne peut pas mettre les gens... Oui, on prend des médicaments, on prend ceci, mais un bipolaire, à côté d'un bipolaire, à côté d'un... C'est comme les autistes. C'est n'importe quoi de dire on est autiste. Il y a tellement de déclinaisons. Il y a tellement... On a quand même, nous-mêmes, en nous, un système qui fonctionne pour être celui qu'on est, nous, l'unique en nous. Voilà. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, si j'appelle, c'est parce que... Donc, voilà. Hier, Philippe a appelé. Et donc moi, ça fait 6 mois que je suis en contact avec Philippe, ça fait 1 mois qu'on n'est plus trop en contact, mon père qui a eu un AVC grave, bref, ça aussi c'est un autre sujet, parce qu'on a la grande chance de le ramener à la maison pour faire une fin de vie, alors que tous les hôpitaux ferment et qu'il n'y a plus de visite et que plus personne va pouvoir voir leur personne chère et qu'ils vont se laisser mourir, ça va être dramatique. En revanche, si j'appelle, je vais faire vite, parce que mon but ici, c'est de vraiment faire un appel, parce que je vois souvent sur les groupes, oh, ça m'a touché, il faudrait faire ça. Là, aujourd'hui, j'ai vu, oh, pour Philippe, il faudrait faire une cagnotte. Mais personne ne fait rien. Une cagnotte, ça se monte en 2 secondes. Donc, si quelqu'un veut faire une cagnotte, moi, je la fais ce soir, la cagnotte, hein, et je la mets sur le... Et moi, je trouve que l'associatif en France est complètement... j'ai vécu 12 ans en Angleterre, c'est pour ça que je dis ça. En Angleterre, oui, il y a un système qui est différent. Il y a plus d'inégalités. Mais en fait, le système associatif est développé d'une façon...
Différente.
Mais c'est énorme.
On a plus que 2 minutes ensemble. On pourra,
oui, d'accord.
On pourra discuter. D'ailleurs, on pourra recommencer l'émission avec vous demain si on termine pas là, hein, Sarah.
Ouais, non, mais en Angleterre, c'est énorme. Mais ce que je voulais, enfin, si on termine ou pas, mais en fait, ce que je voulais dire, moi, c'est quand même les gens donner 10 euros, c'est super. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais moi, je vous dis, moi, Philippe. Oui, j'ai participé financièrement, mais moi, Philippe, ce qui lui a permis de tenir, c'est quand j'ai passé des heures avec lui au téléphone. Quand je suis dans une association, quand je fais des maraudes, c'est pas le sandwich que je vais donner au mec qui est assis par terre.
C'est l'investissement.
C'est l'heure que je vais passer avec lui, à mettre mon bras autour de lui, à parler avec lui, à lui dire que je suis là, que je peux le tenir, que je peux le toucher, qu'il est humain. Que c'est pas balancer une pièce comme ça, ou enfin c'est pas balancer, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment d'être présent. Et si chacun pouvait donner 2 heures par semaine ou 1 heure par semaine dans une association, parce que l'avantage des associations, c'est qu'elles sont structurées. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Ça change tout. Moi, quand je travaille dans une association, on a un planning. Donc moi, je viens de 2h à 4h, etc., etc. Et eux, ils ont des fonds, ils sont quand même financés par l'État, etc. Et si chacun pouvait, au lieu de dire il faudrait faire quelque chose, et comme je disais à Florian tout à l'heure, on en est tous là, on va faire quelque chose, et puis le lendemain, c'est passé, et on fait rien. Hein. Et vraiment, je trouve que pour une émission comme ça, je trouve que ce côté-là n'est pas assez mis en valeur. Et moi, je vais la faire, la cagnotte, pour Philippe. Mais vous voyez, quelqu'un qui dit « il faudrait faire une cagnotte », on ne dit pas « il faudrait faire », on fait, on agit. Parce que là, on sait tous qu'on va dans le mur, là, avec le confinement qui va revenir, on va tous dans le mur. Et les gens qui vont morfler le plus, on sait lesquels ils sont.
Je vous propose quand même, Sarah, que nous continuions demain soir cette discussion.
On
réentamera l'émission avec vous parce que c'est un peu gênant même de s'arrêter
non,
là.
Non, pas de problème.
Parce que c'est vrai qu'on pourra développer cette idée de l'investissement et voir de quelle manière
Je trouve que c'est hyper important.
Oui,
et
de quelle manière on peut donner envie surtout de s'investir. Parce que
souvent, j'ai quelques idées.
Très bien. Et on en parle demain parce que c'est souvent une question de donner un peu le chemin à suivre aux gens.
Oui,
mais on
tout
en
à
parle.
Fait. Non,
on
je suis d'accord.
Demain soir.
Oui, ok,
à demain
super.
Soir, Sarah.
À demain.
Bonsoir.
Au revoir.
Chers amis, c'est la fin de cette libre antenne, une courte libre antenne ce soir, puisque c'est passé comme ça, mais très vive, très intéressante. On continuera donc demain à partir de 22h30. Prenez soin de vous, dormez bien, faites de beaux rêves, à demain.